beaucoup d'Israélites avaient attiré au temps de l'Exode, lorsque le peuple élu traversa le désert pendant 40 ans. Saint Paul, en racontant ces événements, nous rappelle une grande vérité. La vocation divine, cette vocation à laquelle Dieu avait appelé le peuple hébreu pour qu'il soit son peuple et se prépare à la venue du Messie, cette vocation, si elle était un privilège, ne lui donnait pas pour autant l'assurance du salut. Elle ne faisait que rendre plus sacré et plus impérieux ses devoirs de fidélité envers Dieu. Dieu exigeait de son peuple la fidélité à ses commandements. Il y a là une leçon que nous devons méditer, qui vaut pour nous. Car, comme le dit saint Paul, tout cela leur est arrivé en figure et a été écrit pour notre instruction, à nous qui vivons dans les derniers temps, c'est-à-dire qui vivons au cours de cette période qui va de l'ascension de notre Seigneur jusqu'à la parousie. C'est le sens qu'il faut donner à ces mots, les derniers temps. C'est le sens que l'Écriture leur donne. C'est donc pas réservé aux derniers jours du monde, au temps de l'apostasie. Alors retenons l'avertissement, car au fond, nous ne sommes pas meilleurs que ces Hébreux qui se sont abandonnés aux convoitises mauvaises, qui ont tourné le dos à Dieu, qui sont devenus idolâtres, ou qui se sont livrés à l'impudicité, qui ont provoqué la colère de Dieu et qui ont murmuré contre lui. Nous aussi, nous pourrions imaginer avoir des droits. Nous sommes catholiques aujourd'hui, les catholiques ne sont pas très nombreux. Alors, on pourrait peut-être dire au bon Dieu, après tout, comme nous sommes restés fidèles, nous avons des droits, et puis nous sommes traditionnels. Nous pourrions nous croire meilleurs que les autres, et pécher par orgueil, tenter le Christ et tomber lamentablement comme ces anciens Hébreux. Que celui qui se flatte d'être debout prenne garde de tomber. C'est un avertissement très important qu'il faut méditer souvent. Et la leçon de l'Évangile est la même. Pour avoir ignoré la vérité que Jésus lui adressait et qui lui aurait procuré la paix, pour avoir rejeté et crucifié le Messie qui venait la sauver, l'orgueilleuse Jérusalem, la cité ingrate et endurcie, a été détruite et il n'en est pas resté pierre sur pierre. Alors Jésus, voyant cette cité, pleura sur elle, sur son malheur présent, car notre Seigneur voyait le secret des âmes, il voyait ce qui était dans les cœurs, et sur son malheur à venir, cette terrible destruction qui est survenue peu de temps après la mort de notre Seigneur. Si tu avais su ce qui pouvait te donner la paix. Ces mots sont terribles. Quel grand malheur de ne pas savoir, ou plutôt de ne pas vouloir savoir ce qu'il faudrait connaître pour avoir la paix. Mais maintenant, ajoute notre Seigneur, cela est caché à tes yeux. Celui qui refuse la lumière, qui refuse la grâce, qui ne veut pas savoir, tombe dans l'endurcissement. Et c'est un très grand malheur. Alors on sait que la prédiction de notre Seigneur s'est accomplie à la lettre. En 70 après Jésus-Christ, moins de 40 ans après la mort de notre Seigneur, les armées romaines de Titus assiégèrent la ville sainte, l'environnèrent de toutes parts et finalement détruisirent la ville de fond en comble, exactement comme l'avait prédit notre Seigneur. Et ce que l'histoire nous a transmis de ce siège de Jérusalem est effroyable. Il y a eu des scènes abominables. Les habitants mourant de faim s'entretuèrent. Des mères mangèrent la chair de leurs propres enfants. Et il y eut un nombre considérable de morts et un si grand nombre de prisonniers que le prix des esclaves chuta brutalement sur tous les marchés d'esclaves du pourtour méditerranéen. Tout ça nous est rapporté par les historiens de l'époque, notamment Flavius Joseph. Et comme cela se passa dans le courant du mois d'août, exactement le 9 du mois appelé Av dans le calendrier juif, tout comme d'ailleurs la première prise de Jérusalem par Nabucodonosor en 587 avant Jésus-Christ, qui eut lieu le même jour, à plusieurs siècles de distance, alors l'Église a placé cet évangile au 9e dimanche après la Pentecôte, qui tombe toujours en août, pour qu'on n'oublie pas la leçon. C'est un anniversaire, terrible anniversaire. Car cette histoire se poursuit parmi nous. Jérusalem, en effet, est la figure de l'Église. Alors, sans doute, l'Église est sainte. Elle n'est pas coupable, comme l'était la cité de Jérusalem. Elle sait, elle, ce qui lui procure la paix, et elle en vit. Elle connaît son époux divin. Mais les hommes d'Église, eux, peuvent être très coupables, gravement infidèles à leur état, et mériter des châtiments exemplaires. On le voit bien aujourd'hui. Et puis l'Église doit passer par où est passé le Christ et connaître elle aussi la passion. Tout au long de son histoire, elle a connu la lutte et les persécutions. Sans cesse, elle a dû se défendre contre ses ennemis. Mais c'est surtout au temps de l'Antéchrist, au dernier jour du monde pour le coup, qu'elle sera soumise aux angoisses et aux tribulations. Et on pourra dire d'elle, « Viendront sur toi des jours où tes ennemis t'environneront et te serreront de toutes parts. » Au point même, nous dit l'Évangile, que les justes mêmes seront ébranlés. Et que si Dieu n'abrégeait ses jours, eh bien, nul ne pourrait être sauvé. Alors pourquoi Dieu permettra ces épreuves? Eh bien, il les permettra pour deux raisons. Pour purifier les bons et pour confondre à jamais les méchants. La justice de Dieu et la miséricorde de Dieu s'exprimeront d'une manière tout à fait éminente dans ces événements. Et puis d'autre part, Jérusalem est encore l'image de l'âme chrétienne, l'âme pécheresse. Car facilement nos âmes, quand elles sont dans la prospérité, dans la consolation, quand nous sommes favorisés par la fortune, alors nous nous croyons justes, à l'abri des chutes, tout comme Jérusalem qui étalait toute sa splendeur sous les yeux des apôtres, éblouis par sa beauté. Jérusalem, à l'époque de notre Seigneur, c'était une merveille. Le temple était une des 8 merveilles du monde. Mais Jésus, sachant notre mal caché, connaissant nos chutes, nos misères, pleure sur nous, sur nos fautes passées, présentes, et sur le sort qui nous menace si nous ne nous convertissons pas. Comme il l'a dit aux filles de Jérusalem le vendredi saint, « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec ?» En effet, ce n'est pas la ruine prochaine des murs de la cité sainte sur lesquels Jésus pleure amèrement. C'est sur la perte des âmes. C'est cela qui est la source de ces pleurs de notre Seigneur, de ces larmes. Un peu comme s'il disait à chacune de nos âmes, « Si tu savais en ce jour qui t'est donné ce qui ferait ta paix. » Jésus nous visite. Il ne faut pas passer à côté de ses visites. Il n'est pas trop tard aujourd'hui pour demander pardon. Il est toujours temps de revenir, mais demain il sera trop tard. Si Jérusalem était revenue en ce jour, au jour où Jésus l'a visitée, alors elle aurait trouvé la paix. Elle aurait été épargnée. Mais Jésus, ici-bas, nous visite dans sa miséricorde. Mais si nous le repoussons, il nous visitera dans sa justice. Dans tous les cas, notre Seigneur nous visitera. Vous avez noté, mes frères, l'occurrence. Nous fêtions jeudi dernier Saint-Dominique, rempli de compassion en voyant la misère des âmes. Saint-Dominique qui criait dans sa prière « Quid fiant peccatores, que deviendront les pauvres pécheurs ?» Et aujourd'hui, nous méditons sur les larmes de notre Seigneur. C'est le même mystère. C'est l'exemple de notre Seigneur que saint Dominique a suivi. Mais revenons, si vous voulez bien, sur un point de l'Épître, sur l'un des avertissements que nous adresse saint Paul. « Ne murmurez pas comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent sous les coups de l'exterminateur. » Le murmure, ce fruit empoisonné qui valut un tel châtiment aux anciens hébreux, est aussi l'une des causes des larmes de notre Seigneur. Et donc cela vaut la peine qu'on s'y arrête un instant. Le murmure est de tous les temps, mais il était particulièrement présent dans l'ancien peuple hébreu, ce peuple que l'Écriture appelle, à cause de ses murmures justement, un peuple à la nuque raide. Un peuple rebelle, endurci. Et ce vice nous menace nous aussi spécialement, parce que nous vivons dans des temps d'épreuve. Et dans l'épreuve, quand on souffre, on a tendance à murmurer. La nature est ainsi. Alors il faut se prémunir contre ce danger. Voici le portrait que saint Éphrem trace du murmurateur dans son discours sur les vertus et les vices. Voici ce qu'il dit. Le murmurateur est toujours prêt à s'excuser. Si on lui enjoint quelque travail, il maugré et en outre se met à détourner les autres de leurs devoirs en disant « À quoi bon ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Cela ne sert à rien. » Si vous lui faites un avertissement, il vous répond « Corrigez-vous d'abord vous-même. Si on veut lui apprendre quelque chose, plût au ciel, dit-il, que vous en sachiez autant que moi. » Toutes ces actions sont de mauvais aloi, inutiles, impropres à développer aucune vertu. Il ne se réjouit que dans l'oisiveté et les consolations, il se dérobe dans les épreuves. Il poursuit de calomnies perpétuelles tantôt celui-ci, tantôt celui-là. Il se montre faux dans ses amitiés et acharné dans ses haines. Comme le montre cette description, le murmure est le fruit de l'orgueil et de la paresse. De l'orgueil, parce que quand on est contrarié, eh bien l'orgueil, le fond d'orgueil qui est en nous tous se rebelle. Et puis de la paresse, parce que le murmure se manifeste dès qu'il y a un effort à faire, un effort qui coûte. Qu'est-ce que c'est que le murmure ? C'est un mécontentement, ni franchement exprimé, ni tout à fait comprimé, qui se manifeste tantôt face à ce qu'il provoque, ou tantôt à leur insu. Il peut même demeurer purement intérieur, comme celui des pharisiens dans l'Évangile, qui ruminaient en secret la perte de Jésus. Mais rien n'est caché aux yeux de Dieu. Dieu lit dans nos pensées les plus secrètes. Et quand le murmure vise Dieu ou sa providence, il peut dégénérer en blasphème. En effet, il y a une étroite parenté entre le murmure et le blasphème. L'un et l'autre ont pour mère l'impatience, qui résulte elle-même de la volonté propre. Quand la volonté propre rencontre sur son chemin un obstacle inattendu, une contrariété, un effort à fournir, alors elle s'irrite, elle se révolte. Et le ressentiment qu'elle éprouve alors peut soit fuser à petits jets, et c'est ce qu'on appelle le murmure, ou alors exploser avec violence, et on a alors la colère qui peut aller jusqu'au blasphème. Alors tout cela montre que le murmure est un vice plus grave qu'on ne croit. On n'y pense pas assez, on ne s'examine pas assez sur ce point. Le murmure est destructeur pour soi-même, il est source de très grands dommages. D'abord, il nous fait perdre le mérite de toutes nos bonnes actions. Toutes ces actions qu'on avait faites, qui étaient bonnes, par le fait qu'on ait murmuré, eh bien, elles perdent leur valeur surnaturelle, elles perdent leur mérite. Et puis le murmure rend aigri, caustique, cynique, et loin d'alléger le fardeau dont il gémit, il ne fait au contraire que de le rendre plus pénible, parce qu'il engendre en nous de mauvaises dispositions. Et puis non seulement le murmure nous nuit à nous-mêmes, mais il nuit au prochain et au milieu dans lequel on vit. Le murmure empoisonne toute la vie sociale. Il sème autour de lui l'esprit critique, le découragement, le soupçon, les rancœurs, toutes choses qui sont contraires à la charité fraternelle et qui mettent en fuite l'Esprit Saint. Et puis enfin et surtout, le murmure outrage Dieu dans sa sagesse, dans sa justice et dans sa bonté. Il laisse entendre que Dieu conduit mal les choses, qu'il se désintéresse de la marche du monde ou qu'il est injuste. C'est ainsi que souvent, devant les spectacles de la prospérité des méchants et de la souffrance des justes, l'homme est tenté de murmurer contre Dieu, parce que cela lui semble contraire à ce qu'il attend de Dieu. L'Écriture contient d'ailleurs plusieurs passages qui expriment ce désarroi, cette souffrance de l'homme devant l'apparente différence de traitement entre les justes et les méchants. Pourquoi Dieu agit-il ainsi ? Ça nous déconcerte, ça paraît injuste. Par exemple, dans Jérémie, on lit ces mots. c'est Jérémie qui parle. Vous êtes trop juste, Dieu, pour que je prétende disputer contre vous. Je voudrais seulement débattre avec vous un point de justice. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi les perfides vivent-ils en paix? C'est vrai, c'est étonnant. On trouve la même chose dans Job. On la trouve aussi dans le psaume 72. Voici ce que dit le psalmiste. « Pour un peu, mes pieds étaient ébranlés, mes pas ont failli s'égarer parce que j'ai porté envie aux méchants en voyant le bonheur des impies. Car ils n'ont point de tourment à leur mort et leur corps est chargé de graisse. Ils échappent aux misères des mortels et ils ne sont point frappés comme les autres hommes. Aussi l'orgueil les a-t-il saisis, ils s'enveloppent de leur violence comme d'un manteau d'apparat. » Et pendant ce temps-là, les justes, souvent, souffrent ou connaissent des épreuves terribles. Alors l'homme est ébranlé quand il voit tout ça, et il a tendance à murmurer. C'est l'exemple lamentable, notamment, de la femme de Job. Vous connaissez l'histoire. Job éprouvé, Dieu a permis qu'il soit éprouvé pour le purifier. Il est là, sur son tas de fumier, après avoir perdu ses enfants, ses biens, et il est couvert de pustules, il se gratte avec un vieux tesson. Il est vraiment malheureux, et que fait sa femme? Elle est là, elle le domine de toute sa hauteur, et elle maudit Dieu. Elle lui dit « maudit Dieu ». Cet exemple est très éclairant. Alors on voit comme le murmure, au fond, est contraire à l'esprit chrétien. Bien sûr, pour nous, toutes ces épreuves, parfois, peuvent être lourdes et bien mystérieuses. Mais le murmure est contraire à l'esprit d'abandon filial et d'action de grâce qui est la marque du vrai chrétien. Ne murmurons pas dans nos épreuves et dans nos tribulations. Soyons sûrs que Dieu nous aime et nous garde comme la prunelle de son œil. Attachons-nous à répéter avec l'Église ces paroles qu'elle chante au début de chacune des préfaces de la messe. Ce sont des paroles très belles. Peut-être, à force de les entendre, nous n'y faisons plus attention. Le prêtre dit ces mots, « Vraiment, il est digne, juste et salutaire de vous rendre grâce toujours et partout, même dans les épreuves, même dans les tribulations. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel. Dieu est Dieu et il n'abandonnera jamais ceux qui se confient à lui. » Alors demandons cette grâce tout spécialement à la Vierge Marie et unissons-nous à ces larmes de notre Seigneur en étant bien contrits et repentants pour nos propres péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.